When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec, le podcast où je donne chaque deuxième et quatrième mercredi de chaque mois à partir de 6h du matin la parole à un homme pour répondre avec lui à cette question en apparence toute simple mais pourtant incroyablement complexe. C'est quoi pour toi être un mec ? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des portes. Et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des portes sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interviews, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous. Je suis heureux, grâce à Histoire de Mec, de proposer à des hommes de parler. Alors oui, vous allez me dire, mais on les entend sans arrêt les mecs, ça suffit. Alors ouais, ils parlent beaucoup, mais ils parlent rarement des choses qui comptent dans leur vie, comme par exemple de leur définition de la masculinité, de leur rapport à celle-ci, de leur corps, de leurs émotions, de leurs amitiés, de leurs relations à leurs parents et à leurs amours, et plus globalement de leur existence dans notre société aujourd'hui. Bref. Ici, on va laisser parler des mecs, de leur existence de mecs, et j'espère que ça pourra vous éclairer sur la masculinité au 21e siècle. Cette semaine, je reçois Théo et Flo, les deux compères qui sont derrière le podcast Mise à Mal, un des trop rares podcasts créés par des mecs pour causer de masculinité. Comme vous l'entendrez, Théo et Flo utilisent le podcast pour eux-mêmes avancer sur le sinueux chemin de la masculinité, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont très très ouverts à réfléchir à ces sujets. Bon, je n'en dis pas plus, je vous invite juste à vous installer, à écouter Théo et Flo. Moi, ça me fait plaisir de mon côté d'avoir deux guests au micro, ça donne un autre rythme à la conversation, j'espère que vous apprécierez. On est avec Théo et Flo, donc salut les mecs.
Salut.
Salut.
Comment ça va ?
Bah ça va plutôt bien, écoute. Petite fatigue moi, mais ça va. Très content d'être là en tout cas.
Petite fatigue de quoi ?
Petite fatigue de la vie. Trop de
fameuse fatigue de la vie.
La fameuse.
Ça fait 27 ans que je suis fatigué, mec.
Non, boulot, trop de travail, mais tout va bien.
Ok. La santé, ça va. Enfin, je veux dire.
Santé, tout va bien.
Quand tu dis t'es fatigué de la vie, ça fait peur, quoi. Tu vois.
Non, c'est finir, quoi. Non, pas du tout. Non. Alors, je retire la blague. Ça peut être une mauvaise blague. Non, je vais très bien. Ça va super.
Ok. Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous m'avez envoyé un DM, je crois, pour me parler de votre épisode de podcast. Vous avez un podcast qui s'appelle Mise à Mal.
Ouais.
Où vous parlez de préservatifs.
Tout à fait.
J'avais évoqué, j'avais envie de faire. Moi, je vais faire un sujet sur la contraception masculine. C'est un vrai sujet. Et vous m'aviez envoyé un petit message en disant tiens, regarde un petit peu ce qu'on fait et tout. Et j'ai écouté un peu. C'est vraiment cool ce que vous faites. Et je me suis dit, ça vaudrait la peine de les faire venir dans l'Histoire de Mec, déjà pour faire découvrir le podcast à mes auditeurs, à moi et à mes auditrices. Et puis aussi pour vous mettre dans une situation où vous n'êtes pas, c'est-à-dire de venir répondre à mes propres questions, quoi. Vous êtes rencontrés comment, en fait, tous les deux ?
Sur les bancs de l'école.
Ah ouais, vraiment ?
Ouais, vraiment.
Vous avez 3 piges d'écart ?
Alors oui, mais en fait, moi j'ai eu une autre vie avant.
Ah oui, ok.
Moi j'étais Batman.
Ah, Batman.
Non, j'ai eu une autre vie avant où j'étais artiste pendant 5 ans. Et je crevais la dalle, donc du coup j'ai repris des études. Et donc j'ai repris des études dans la génération de Théo. Donc
okay.
On s'est trouvé à l'école, on a fait une école de communication ensemble. Et on est en dernière année, on est devenus potes.
Ouais, en dernière année, et moi c'était mon deuxième master, toi c'était ton deuxième master aussi. Non ?
Oui.
Ouais, enfin c'était vraiment on était sûr de plus refaire d'études après, quoi. Il y avait pas de. On s'est bien trouvé sur ce coup-là.
Ouais. Justement, comment l'amitié s'est nouée ?
Alors, ça implique des bananes, des bananes et des renards.
Exactement.
Ok.
Parce que moi, j'ai très mauvaise mémoire à chaque fois pour toutes les blagues qu'on se fait avec Flo, donc c'est lui l'archiviste.
Mais du coup, je peux dire n'importe quoi. Alors, c'est quand j'ai inséré...
Une banane dans un renard.
C'est tout, ça s'en sert là. Non, ce serait pire l'inverse. Je mangeais beaucoup de bananes à l'époque, parce que je faisais beaucoup de sport, et donc du coup, j'avais besoin de calories.
Ouais.
Gomuscu.
Des brottes. Des...
Non, même pas en plus.
Bah non, mais
des
du coup...
Des fibres.
Calories. Des fibres, beaucoup de fibres.
Des fibres.
Des fibres et des filles.
Le podcast nutrition
et séduction,
oh,
c'est génial, nouveau concept. Et donc je mangeais beaucoup de bananes et Théo est venu me parler en me faisant une blague sur la banane, enfin un petit icebreaker, et il portait un pull avec des renards dessus. Et je me suis dit, c'est impossible qu'un mec qui porte un pull avec des renards soit pas chouette, quoi. Enfin, soit pas cool. Donc, du coup, trop d'animaux dans l'histoire. Et donc du coup, on s'est mis à se parler comme ça. Et après, c'est juste qu'on était dans la dernière année d'études, qui des fois était un peu bullshit, et on prenait beaucoup de recul sur ce qui se disait, et donc on blaguait, et c'est comme ça qu'on a noué une amitié.
C'est vraiment l'humour. On prenait rien au sérieux, et on était, bon.
Toi, non, moi, oui, je te disais, j'ai besoin d'écouter les cours, et toi, t'étais.
Oui, mais non, mais en vrai, tu voulais pas écouter. On prenait rien au sérieux, et on avait le même humour aussi un peu. En fait, ouais, c'était un mélange de, on a le même humour qui peut être un peu trash, et ou très absurde, et en même temps, sur, les dimensions un peu plus intellectuelles, on va dire, on était heureux de se stimuler.
Et le dernier élément, c'est qu'on a rompu en même temps.
Putain, ouais, j'avais oublié ça.
Et en fait, c'est le moment où notre amitié s'est vraiment transformée en quelque chose de charnel.
C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on s'aimait.
Qu'on s'aimait, voilà. Donc,
on était libre.
Mais il y a ce truc où Théo est sorti d'une relation de 5 ans et demi et était complètement déphasé de en fait, je suis qui, je fais quoi avec les autres, comment ça se passe.
Relation ultra fusionnelle où j'avais complètement oublié de grandir moi et j'avais grandi à deux, en fait.
Mais et moi, j'ai été vachement touché que la personne qui l'appelle le soir où il déprime, qu'il était dans un appart transitoire, voilà, ça soit moi. Donc il y a eu ce truc où on s'est vachement rapproché. Et puis moi, j'avais quitté ma copine où c'était dans le sens inverse. C'était, je ne comprends pas pourquoi mes relations ne marchent. C'est moi qui quittais les femmes et je ne comprends pas pourquoi mes relations ne marchent pas à répétition. Et se retrouver tous les deux à un moment où on avait fini nos études. Donc il faut que tu. Il n'y a plus d'autres paliers après. C'est vraiment toi qui fais tes choix. Tu n'as plus licence 1, licence 2. Vraiment, tu es libre de tes choix. Et qu'est-ce qu'on fait avec notre futur? Qu'est-ce qu'on fait avec nos relations, etc. Qu'on a commencé à se questionner et qui est né le podcast aussi.
Alors, spoiler alert, si vous êtes en permanence avec des meufs ou des mecs avec qui ça ne marche pas, peut-être que c'est de votre faute à un moment donné.
C'est ça. Si le seul dénominateur commun, c'est toi.
Peut-être, hein. Je dis pas, après c'est obligé, mais peut-être.
Et donc moi j'ai eu une grosse pause pour essayer de comprendre qu'est-ce que j'essayais de me répéter comme schéma que je n'avais pas compris. Parce qu'il y a, en fait, je pense que quand tu retombes toujours sur les mêmes erreurs, c'est ton comportement inconscient qui te dit « t'as pas appris la leçon ». Donc du coup, ce que tu n'as pas appris te sera resservi 1000 fois. Enfin, c'est vraiment le truc que je me dis. Donc maintenant, quand il y a 1, 2, 3 occurrences, je me dis « bon, là il y a un truc que je fais qui n'est pas bien, c'est pas la faute des autres, c'est moi qui est en train de m'apprendre une leçon que j'ai pas comprise ».
Vous avez créé ce podcast début 2019, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
2018, non?
Alors, on l'a créé en 2018, mais on s'est lancé live en 2019.
Ah, en janvier, ouais.
C'est ça. Hein.
C'est ça.
Et après, on a fait une longue pause d'un an, parce qu'on a fait un petit burn-out, parce qu'on n'avait pas vu à quel point c'était prenant d'avoir un podcast. Et en fait, ça nous manquait trop de.
C'est quoi ça. Non, mais c'est ça, on avait plein de soucis avec des meufs aussi.
Ouais, on avait des problèmes d'intimité. En fait, le parti pris du podcast, c'est de vraiment montrer notre intimité comme on pourrait le partager à un apéro. Sauf qu'on a commencé à le faire dans nos chambres sans auditoriste, quoi. Et quand on a commencé à être diffusé, on s'est rendu compte de l'ampleur de parler de ce genre de choses publiquement. Et surtout avec les personnes qu'on fréquentait à l'époque qui découvraient des choses dans le podcast, de l'ordre de l'intimité, etc.
Ah.
Et donc, ça s'est un peu mal passé.
Parce que vous parliez entre vous de trucs dont vous ne parliez pas à vos meufs.
Bah,
tout à fait.
Ouais, en fait, ouais, il y a des sujets qu'on, mais pas parce qu'on les cachait, c'est juste que l'occasion s'était pas présentée d'en parler avec elle. Et du coup, il y avait un déséquilibre qui s'était créé où on racontait des trucs publiquement qu'on n'avait pas discuté encore avec elle.
Et pour, en fait, aussi pour comprendre ça, c'est que nous, le parti pris du podcast, c'est de faire vraiment un apéro entre potes. Donc oui, il y a des choses que t'évoques à un apéro avec tes meilleurs potes dont tu parles pas à ta meuf. Et du coup, le podcast, c'était exactement pareil, sauf qu'il y avait des micros et que c'était accessible sur Spotify. Donc, ce qui pouvait poser problème.
C'est le détail qu'on avait oublié.
Et mais de ce fait-là, ça vous incitait pas à aller discuter avec vos meufs à l'époque de sujets dont vous aviez parlé entre vous avant que ce soit diffusé?
Il y a plein de choses. C'est qu'il y a des fois, on est très alignés dans nos pompes au moment où on enregistre le podcast. Et après, quand nos meufs écoutent, entre-temps, on a pu juste changer d'avis. Et du coup, il y a une sorte de décalage. Et moi, il y a beaucoup de sujets que... En fait, là, le moment où on a arrêté le podcast, moi, j'étais en relation depuis peu de temps avec une personne. Donc, ça... Non, je confonds complètement la chronologie. J'étais pas du tout en couple à la fin du podcast. Non, pas du tout. Non, c'était...
C'était moi.
Oui.
On est... Du coup, est-ce qu'on a fusionné à ce point, Théo?
On est hyper fusionnel.
En fait, moi, j'étais en couple. En fait, j'ai commencé le podcast, j'étais pas en couple.
C'est parce que ça m'est arrivé dans la saison 2, il y a pas longtemps.
Oui, c'est vrai. Mais tu veux ma vie? On peut, hein.
On échange, on fait peut. Une semaine chacun et la moitié des vacances scolaires.
De toute façon, Fabrice, il confond déjà nos prénoms, donc ça veut dire qu'on a déjà commencé.
Exactement. La fusion.
Mais c'est compliqué, enfin, tu vois, vous finissez par eau, enfin, on n'a pas idée.
Mais donc, en saison 1, c'était... J'ai commencé... La saison, j'étais pas en couple, donc on avait déjà enregistré des épisodes où j'avais pas pu discuter avec ma meuf parce que je la connaissais pas encore.
Ok.
Et elle a découvert des trucs quand on s'est mis ensemble. Elle a commencé à écouter mon podcast sans trop m'en parler. On n'avait pas eu la discussion, mais c'est pas grave, tu vois. J'étais tellement fier de faire ce podcast que j'étais très heureux qu'elle aille l'écouter, mais j'avais pas réalisé qu'il y avait des trucs qu'elle aurait peut-être voulu partager en live avec moi avant d'écouter. Tu vois, l'épisode 2, c'est les amitiés hommes-femmes et l'ambiguïté de certaines amitiés que j'ai avec des amis femme. Elle a découvert que certaines filles qui étaient dans mon environnement très proche, j'étais attiré par elles et je peux comprendre que ça lui ait fait un peu grincer des dents, quoi.
Et donc elle est venue te voir?
Ma meuf, ouais. De l'époque. Ouais, elle est venue, mais elle m'a embrouillé direct. Par contre, c'était pas une discussion apaisée. J'ai tapé en sans faire exprès direct dans ses insécurités. Donc après, on en a discuté.
Oui.
Mais ouais, elle est venue me voir.
Et toi donc, c'est quoi la vraie histoire?
Alors moi, l'histoire un peu récemment, c'est plus la métaphore que j'utilise, c'est l'histoire de Barbe Bleue, dans lequel il y a une pièce qui doit rester fermée absolument et que la femme n'a pas le droit d'ouvrir, en fait. Et moi, c'est un peu ça, parce que du coup, suite à l'expérience de Flo, et même Flo avait mis en place ça, il me semble, par la suite, il y avait une politique un peu de... nos meufs ne doivent pas trop écouter le podcast, parce que ça déséquilibre vachement une relation. En fait, c'est tu en un clic, t'as accès à toutes nos pensées sentimentales de ces deux dernières années avec des relations différentes, des meufs différentes. Et il faut pas que derrière il y ait une relation, il y a une discussion qui se crée sur ces mêmes sujets, parce qu'en fait, tu sais pas comment ta meuf se positionne sur ces sujets, mais elle sait tout de toi. Donc il y avait cette politique de non écoute et de vraiment la chambre de Barbe Bleue, et c'était vachement difficile pour ma meuf de savoir qu'elle n'avait pas accès à ça, alors que je me confiais sur des choses et que potentiellement je parlais d'elle. Alors depuis, on en a grave parlé et ça va mieux, mais il y avait quand même cette peur du cette relation mi publique mi privée quelque part, parce que on enregistre
mise à mal
on enregistre à huis clos derrière des micros, mais derrière cette discussion qui est très intime, très personnelle, très privée et accessible à tout le monde, sauf a priori aux filles qu'on fréquente, parce qu'on veut se protéger nous, les protéger elles aussi, parce qu'il y a des choses qu'elles ont pas forcément envie de découvrir ou d'entendre, et aussi pour ce décalage que j'évoquais tout à l'heure, où il y a des choses qu'on a pu dire il y a un an, on a complètement évolué sur la question, et du coup ça serait une vue très biaisée. Je sais que par exemple l'épisode qu'évoquait Flo sur l'amitié fille-garçon, ma vue sur le sujet, elle a beaucoup évolué entre-temps, donc si ma copine actuelle écoutait ce podcast-là et qu'elle venait en discuter avec moi, et bah peut-être qu'en fait elle serait pas d'accord avec ce que je dis dans le podcast, mais que du coup je serais d'accord avec elle maintenant aujourd'hui, mais qu'elle serait pas en mesure de comprendre forcément ce décalage directement.
Par contre, ce que tu dis, Fabrice, c'est hyper intéressant, c'est que avant c'était un peu notre jardin secret. Moi, j'avoue, je discutais pas des épisodes avec mon ex. J'allais enregistrer avec Théo et c'était voilà, je fais ce
vous
que
vous êtes
je veux.
Séparés depuis.
Oui, on s'est séparés
à cause du podcast.
Tout à fait. Non, pour d'autres raisons, parce qu'on s'entendait pas.
Ceci dit, si elle vient t'embrouiller quand tu viens raconter, tu viens te livrer sur un truc, déjà pour moi c'est un red flag, quoi, tu vois.
Ouais, j'aurais aimé que tu me le dises il y a 2 ans.
N'hésite pas à venir me voir la prochaine fois.
Okay. Je peux te parler de mes relations. Est-ce qu'on peut faire ça pendant une heure?
Salut Fabrice, est-ce que c'est un red flag?
Je t'envoie des textos, le prochain red flag que j'ai. Non, mais je l'avais pas réalisé et c'est vrai, mais je me disais, c'est vrai que c'est moi qui ai merdé, j'ai tapé dans ses insécurités, c'est moi qui ai pas été précautionneux sur la manière dont j'ai...
Tu l'as enregistré dans un podcast, tu la connaissais même app.
Je sais. Mais c'est le problème, tu vois, du complexe du sauveur, c'est de se dire que tout est ta responsabilité. Enfin, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là et ça m'a coûté. Au point où j'arrête quand même le podcast, alors que c'était vraiment mon bébé.
Donc c'est à cause de ça que vous avez arrêté?
En partie.
Il y avait d'autres choses. Moi, j'avais pris des nouvelles responsabilités au boulot, c'était plus compliqué.
Okay.
Il y avait un troisième truc.
Je changeais de taf, moi, donc.
Flo, il changeait de taf aussi. Donc, c'était un mélange de personnel et de professionnel en fait.
Ok, ok.
Ouais. Mais non, mais ça a beaucoup joué. Hein. Et j'ai pas diffusé un épisode. On avait fait la mise à nu de Théo, qui est un épisode un peu spécial où voilà, je lui posais des questions un peu plus intimes. Et Théo avait fait ma mise à nu. On l'avait enregistré et je l'ai jamais diffusé parce que j'ai eu trop peur en fait de ce que je livrais. Enfin, il y a eu un impact sur le podcast quand même à cette époque-là.
Alors que c'était un bel épisode en plus.
Mais je pense le ressortir aujourd'hui, mais et aussi de pour mesurer.
Vous pouvez réenregistrer.
On peut, mais c'est intéressant aussi de voir la distance de il y a un an. Ouais. Et de peut-être commenter des choses.
Faudrait appeler ça dialogue avec toi-même, quoi, et puis voir.
Ouais. Bah voilà, on a un nouveau
concept qui émerge.
Mais juste sur ce que tu disais, Fabrice, aujourd'hui, maintenant, quand on va enregistrer un sujet avec Théo, j'en parle. Donc j'ai pas qu'une seule meuf aujourd'hui. Je suis polyamoureux, donc j'ai plusieurs relations.
Oh, le mec.
Ouais, je le place plus. Comme ça, polyamoureux.
Insupportable.
Baby polyamoureux, parce que j'y comprends rien. Je l'admets. Je comprends rien à ce que je fais.
Oui, et donc c'est pas polyamoureux avec des enfants, précisons-le, c'est important.
Ah oui, pardon, c'est moi qui suis baby. Merci Théo, le truc il devient très glauque très vite.
Baby polyamoureux.
Et maintenant qu'on enregistre des sujets, c'est vrai que je l'évoque avec les personnes que je fréquente et ça donne sujet à des discussions ou pas. Si ça les intéresse pas, on n'en parle pas. Mais si
j'allais dire, c'est trop bien, au contraire, ça donne tellement de sujets de discussion plutôt que de sujets d'embrouille, quoi.
Oui, oui, c'est mieux dans ce sens-là.
C'est étonnant.
Ouais.
Ok. Vous avez dit plein de trucs très intéressants. Le premier truc sur lequel je voulais revenir avant tout, c'est que effectivement, tu le disais, l'objectif du podcast, c'est de faire une discussion, un apéro entre mecs. Je crois qu'à la base, votre truc, c'est vraiment de dire, en fait, entre mecs, on a tendance à pas se parler, à pas raconter nos sentiments. C'est un truc qu'on a vu dans le feu de Boys Club, quand ce podcast s'appelait le Boys Club, mais aussi Histoire de mecs. Les mecs ne parlent pas de leurs sentiments, sauf quand ils commencent à prendre des verres dans la gueule, et que, alcoolisé, ça commence à se détendre, et ça commence à savoir se dire je t'aime, et à savoir parler de ses émotions. C'était un peu votre constat, c'est ça qui vous a amené à créer Mise à Mal ?
Complètement. Alors, il y avait surtout le déclencheur, c'est que derrière ces discussions qu'on avait autour d'un verre avec nos potes, on retrouvait des sujets communs en fait qu'on abordait en pensant que c'était notre problème et que personne d'autre l'avait vécu au monde, alors qu'en fait tous nos potes avaient des témoignages à partager. En
classique
fait.
Shit.
Ouais, voilà. Et c'était genre ah ouais, en fait c'est pas la première fois que quelqu'un sur Terre, enfin qu'un homme sur Terre rencontre ce problème-là. Et en fait la voix des autres hommes qui en ont pas parlé spontanément parce que c'est intime, mais en fait ils peuvent t'aider, quoi. Et c'est un peu ce qui a déclenché ça en disant ok, on va faire des apéros, poser des micros au milieu et voir comment ça se passe.
Ouais, le but derrière c'était vraiment de voir à quel point ça nous détend de mentionner ces sujets là c'est en fait la tension, elle vient pas du fait d'en parler publiquement, elle vient de le garder pour soi et de croire que t'es anormal parce que t'as pas réussi à bander hier soir avec la meuf que t'as rencontrée. Bah oui, en fait, parce que peut-être t'as besoin d'une connexion émotionnelle et que c'est ok d'en parler et qu'il y a peut-être tes potes autour qui l'ont vécu. Donc vraiment, en en parlant, on se rend compte que ça détend tout le monde. Enfin,
voilà. C'est ça, il y a une sorte de fil de vrais potes aussi dans ce que tu racontes. C'est que typiquement, cette anecdote-là, t'as eu une panne hier avec ta meuf ou ton plan cul ou peu importe. Si c'est des vrais potes, tu peux le dire. Si c'est des faux potes ou des potes un peu moins intimes, tu vas mentir sur ta soirée. Tu vas dire oh, j'ai vu mon plan cul, on a trop ken, c'était trop bien. Il y a une sorte de... La vraie intimité, elle se débloque avec des amis qui sont vraiment très proches et où il y a un cadre bienveillant qu'on a essayé de recréer au maximum aussi dans le podcast.
Qui sont donc des amis versus des potes.
Ouais, on pourrait dire ça.
Ouais, c'est vrai. Il y avait un autre enjeu qui était d'assumer le fait de douter, de pas arriver avec des réponses toutes faites. Et ce qu'on fait dans le podcast, c'est de se déconstruire progressivement. Et donc du coup, ouais, le simple fait d'évoquer des sujets, et là, on n'a jamais des réponses en fin d'épisode, on n'a jamais trouvé la solution. Par contre, tu peux être sûr qu'on a planté une graine et que ça va continuer à cheminer et que maintenant, on sera peut-être un peu plus attentif aux sujets qu'on a évoqués ensemble, quoi. Donc on est bienveillants les uns avec les autres et on se permet de douter, ce qu'on fait très peu quand on est un homme en général.
Exactement. En fait, on a aussi fait un tour d'horizon de ce qui existait comme podcast sur la masculinité. Il y avait deux constats. Le premier, c'est que c'était pour la plupart des podcasts qui étaient très renseignés, très documentés. Des personnes qui lisent 2-3 ouvrages avant chaque épisode ou qui interviewent des spécialistes. Et le deuxième, c'est qu'il y avait beaucoup de podcasts sur la masculinité qui étaient animés aussi par des femmes.
Sans déconner. vous savez pourquoi ?
Dis-nous, bah parce que les femmes sont plus libérées sur les questions intimes et sentimentales.
C'est une question de lutte d'abord. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas. C'est que le féminisme a d'abord été porté par des femmes parce que c'était les premières à en souffrir et qu'il fallait qu'elles libèrent cette parole-là. Et en fait, ce qui est complètement louable et normal, mais nous mis à mal, on s'est dit, en fait, nous aussi, on veut lutter avec elles et pas à leur place et à leur côté. Et comment on fait ça? Mais c'est déjà en s'exprimant de notre place, de ce que c'est que d'être un homme. Donc c'est, on n'a pas voulu se substituer, on a voulu se rajouter à des podcasts comme Les Couilles sur la Table ou ces podcasts-là qui sont excellents par ailleurs, quoi.
Complètement. Et il y avait aussi pour nous une certaine audience qui était pas forcément qui pourrait être réfractaire à ce genre de podcast. On pense notamment à juste des mecs qui sont un peu plus bourrus, qui sont pas masculinistes mais qui sont pas non plus féministes, qui sont un peu dans ce ventre mou et une sorte d'entre-deux, qui pourraient s'ouvrir à ces discussions très intimes, mais en fait qui se braqueraient en voyant que le podcast était animé par une femme. C'est con, hein, mais c'est une réflexion logique, comme il y a plein de mecs, il y a plein de meufs qui se braqueraient quand un mec parle de féminisme en leur nom, c'est ce qui est normal. Et du coup, on s'est dit, mais ces gens-là, c'est dommage parce qu'ils peuvent basculer potentiellement dans le camp où on n'a pas envie qu'ils soient, donc le camp vraiment très réfractaire, très masculiniste, alors qu'ils pourraient tout aussi bien basculer dans l'autre camp s'ils avaient un bon intermédiaire, quoi. Et on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'on va faire une voie un petit peu alternative, qui aura le même but, la même idéologie de vivre tous ensemble en parfaite harmonie, mais avec une façon de le faire différente, peut-être, alors moins renseignée, peut-être plus authentique et plus sincère aussi, puisque, comme le disait Flo, on a le droit, à l'erreur, on a le droit aussi enfin, c'est un cheminement plus qu'une une parole d'évangile, quoi. Et voilà.
Je suis intéressé de ton analyse, du coup, pourquoi les femmes animent ce genre de podcast.
Bah, parce que je crois que les mecs parlent pas.
Ah oui, il y a ça.
Enfin,
aussi.
Si, les mecs parlent énormément. On les entend parler sans arrêt. Ils ont des avis sur tout, la politique, l'économie, Éric Zemmour, mes couilles, etc., etc. En revanche, le jour où j'entendrai Éric Zemmour parler de son rapport à la masculinité, si tu veux.
Ou de ses éjaculations précoces.
Ou de son rapport à son papa, ou de son rapport à sa maman. Putain, là, je me dirais, ok, Éric Zemmour, tu grimpes d'un coup d'un seul dans mon estime, quoi. Mais les mecs ne parlent pas des émotions parce que c'est pas un précaré masculin d'une manière générale. Et puis il y a ce truc aussi que vous j'imagine que vous avez combattu aussi, qui est de se mettre un peu à poil sur le truc, quoi. Et puis quand t'es un mec, je crois que de base tu réfléchis pas vraiment à ce que c'est qu'être un homme, parce que t'as pas vraiment besoin, je crois. Alors que les meufs, on leur claque leur féminité dans la gueule depuis le plus jeune âge, si tu veux, et puis on leur claque bien à plusieurs reprises dans toute leur vie. Elles n'ont pas vraiment le choix, en fait, tu vois, pour la plupart de réfléchir à ça, alors que généralement pour les mecs ça crouse, quoi, tu vois, sur la vague de la masculinité, pas pour tous les mecs, mais ouais, pour la plupart des mecs, quoi.
C'est vrai que l'image du mec, elle est peut-être plus confortable pour les mecs que l'image de la meuf pour les meufs.
Ah bah oui, très
c'est
clairement.
C'est une phrase compliquée.
Bah, c'est l'avantage qu'on a d'être dans un rôle dominant depuis des millénaires, c'est qu'on n'a pas à se poser la question. mais c'est vrai que je pense que t'as dit le mot, c'est les émotions, en fait. Et c'est pour ça que nous, on voulait axer sur... Alors, on prend des sujets tabous, mais on creuse de ce que ça nous fait sentir sans faire les psys de bas étage, parce qu'on n'a pas les compétences. Mais c'est vrai, on se pose des questions. Bah, pourquoi j'ai eu peur, ou pourquoi... pourquoi je me sens mal à l'aise? Et là, tu vois, on est en train de... Donc peut-être quand l'épisode sortira, là, on aura sorti cet épisode, on fait un épisode sur l'homo-curiosité. Et dans cet épisode, moi, je livre un peu mon attirance pour les femmes transgenres. Quelque chose que j'ai jamais dit publiquement, et je le dis pendant le podcast, je suis très mal à l'aise de partager ça. Et je le dis quand même, et en disant que je suis mal à l'aise. C'est important, les deux, en fait. L'information est aussi importante que l'émotion... Voilà, je livre ça à l'état brut, et je sais pas ce que ça veut dire de moi, je sais pas comment ça va évoluer, mais je le pose, et si ça peut détendre d'autres hommes qui se posaient la question, c'est tant mieux.
Je crois que c'est ça aussi, c'est-à-dire que le simple fait de le dire, sans venir porter de jugement même sur toi, etc., c'est déjà un truc, c'est-à-dire que les mecs ne parlent pas, et surtout ils attendent que le premier mec parle souvent.
Moi, il y a une phrase, enfin, quelque chose qui m'est revenu dans la première saison, c'est de se dire que finalement être un vrai homme, c'est être capable de savoir quand on se sent moins homme que les autres, quoi, et de pouvoir mettre des mots et de l'afficher en public, plutôt que le mec qui va être que façade et artifice, qui va s'afficher dans tout ce qu'on a de très stéréotypé sur l'homme, mais en fait ça va cacher une faiblesse, alors qu'en fait avoir le courage de mettre cette faiblesse sur la table, sur le devant de la scène et d'en parler, bah c'est plus une faiblesse en fait. À partir du moment où tu la gardes plus pour toi, où tu l'identifies et tu dis regardez tous, j'ai cette faiblesse et maintenant j'essaie de comprendre d'où elle vient et surtout est-ce que c'est vraiment une faiblesse, est-ce que j'ai besoin de me changer là-dessus ou pas, c'est ce qui rend quelque part en fait beaucoup plus fort, parce que on parle souvent de la force comme enfin c'est l'attribut classique de l'homme. Bah en fait la force elle vient aussi de là, la force vient de ta faiblesse, de ta capacité à en parler.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Mais je pense qu'au-delà de la faiblesse, j'ai l'impression qu'on a vachement héroïsé la faiblesse ou la faille ou ces derniers temps. Moi, je pense qu'il y a une notion de honte ou de gêne aussi qui est assez peu explorée chez les hommes. Mmh. On peut parler de nos faiblesses maintenant, c'est genre, bah bien sûr, je pleure. Tu vois, maintenant, il y a une forme de fierté à dire. Mais de dire, des fois, j'ai envie de me faire sodomiser alors que je suis hétéro, je sais pas moi, je dis que ça pourrait être ça. Bah, il y a quand même tout de suite un truc de « ouh, ça, je l'ai pas entendu très souvent ». Enfin, il y a une forme de gêne que... qu'on assume moins parce que elle nous fait pas être bien vue.
Oui, c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de faiblesses qui ont été intégrées justement dans le prisme de l'homme un petit peu. Alors plus à travers.
Sans doute dans votre bulle, hein, les mecs. Désolé, hein, mais
peut-être aussi.
Ah ouais. En dehors de votre bulle, ouais, il y a encore du taf. Hein.
Ah ouais, non, mais ça c'est.
Non, vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, non, mais
pleurer pour un mec, c'est pas encore.
Complètement. Mais tu vois.
C'est pas basique. Hein.
Pour parler justement de notre bulle, mais c'est ouais. Vrai que. Enfin, tu prends. Vas-y, je prends une bulle, mais qui peut être potentiellement connue par beaucoup de personnes. Les applis de rencontre à Paris, machin. Et ben en fait, un mec qui va se dire un peu. Qui va assumer justement ces failles-là, ce côté je pleure, machin. Quelque part, c'est presque même plus des faiblesses. Quoi. Mmh. Ça peut être mis en avant. On est très fort aussi, nous, en tant que dominants, pour faire de tout une excuse de force. Quoi.
Ce qu'on appelle en sciences politiques l'intégration de la contestation. Voilà. Je pose ça là. C'est un concept qui m'a
cultivé.
Non, mais ça m'a beaucoup aidé, moi, de remarquer que la contestation était souvent intégrée par ceux qui dominent en fait, et que c'est un moyen de continuer à dominer tout en se donnant le beau rôle. Moi, quand quelqu'un me dit je suis d'accord avec toi, je me pose toujours la question de quel est l'intérêt derrière.
Ah oui, pour me prouver que j'ai tort.
t'as un peu répondu tout à l'heure, mais en fait la question que je pose à tous mes invités, c'est quoi pour vous être un mec?
Moi, tu veux répondre d'abord ou j'enchaîne sur ce que j'ai commencé à dire?
Comme tu veux.
Ouais, bah c'est vrai que moi, du coup, j'ai un peu réfléchi à la question. Et pour moi, le côté être un mec, c'est être capable de se remettre en cause. Et parce que je fais beaucoup la distinction, et ça, c'est mon prisme. Et pour moi, il y a être un mec et être un garçon, en fait, et une sorte de transition de maturité à avoir. Et pour moi, quand t'es un garçon, t'es tellement obsédé par l'idée de devenir un mec, de devenir un homme, que tu vises une image et un idéal. Et du coup, tu vas tout droit et tu vas pas prendre le temps de regarder comment t'es maintenant. Alors qu'une fois que t'as été un homme, on va dire, entre guillemets, et puis c'est aussi le serpent qui se mord la queue, puisqu'il faut le faire pour le devenir, une fois que t'es capable de regarder ton image là où t'es, et de dire « Ah, mais je suis comme ça et pas comme ça », et « Ah oui, mais je change », mais « Ah oui, je suis pas comme mon voisin, et je suis pas comme ce mec que je vois dans une pub à la télé », ah oui, donc en fait, je suis un homme, parce que j'ai fait l'effort de me construire et de me déconstruire en tant qu'homme. Je sais pas si c'est...
J'attendais que tu drops de mic, moi.
Oui.
Non, mais ils sont fragiles. Casse pas, mais...
et moi, je dois avouer que c'est une question hyper difficile, donc merci de la poser, parce qu'on a beau avoir un podcast sur le sujet, on se la pose jamais aussi frontalement, on se la pose avec des thématiques, mais et elle est difficile à, pour deux raisons. La première, elle est sociale, enfin structurelle, c'est que c'est vrai qu'en tant qu'homme, on a le beau rôle, et donc on a intérêt à garder le statu quo, et donc à pas questionner ce statut-là. Mais il y a aussi le fait que moi, j'ai été élevé dans une famille où j'ai eu une éducation assez peu genrée, ou de manière assez ambivalente au niveau du genre, parce que j'ai été élevé par une mère célibataire féministe 68 tardes et mon oncle homosexuel qui était dans des milieux assez un peu queer, et donc voilà, une définition de la masculinité pour moi qui était plus fluctuante. C'est en me confrontant à d'autres cercles de socialisation, donc les colonies de vacances ou l'école, que je me suis rendu compte que ce qu'on attendait de moi. Et pendant longtemps, pour moi, être un homme, ça a été contrôlé, et contrôler particulièrement mes affects, donc mes émotions, ce que j'allais dire, l'image que je renvoyais, voilà. Et pendant longtemps aussi, je me suis défini dans ma manière d'être homme par rapport à la séduction. Donc, je suis hétérosexuel et c'était si j'arrivais à séduire des femmes pendant très longtemps. Et aujourd'hui, j'avoue que je ne saurais plus trop répondre à la question, si ce n'est arriver à m'exprimer. Et ça ne veut pas dire faire du mansplaining, mais ça veut dire dire mes doutes quand ils viennent, oser cheminer à haute voix. Ça, c'est pour moi la meilleure manière d'être homme.
Tu disais tout à l'heure... alors attends, il y a deux trucs qui m'intéressent. C'est sur cette histoire de mansplaining, mais on y reviendra après. Tu disais aussi que pour toi, c'était contrôlé. Comment tu as réussi dans le cheminement à relever un peu le contrôle par rapport à ça, ou en tout cas à le calmer un petit peu? Est-ce que c'est en cours?
C'est encore en cours.
Ouais.
Par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un métier qui me permettait de passer sous le radar. C'est que pendant 5 ans, j'ai été artiste professionnel. Et donc, du coup, je pouvais m'exprimer et c'était complètement OK. En fait, mon identité était plutôt était diluée dans le fait d'être artiste plutôt que dans le fait d'être homme. Donc, j'ai pu m'exprimer comme ça. Et puis après... aujourd'hui, j'apprends à m'exprimer de manière plus publique, plus intellectualisée aussi, parce que l'art, c'est très bien, mais il y a pas, je nommais pas certaines choses, je communiquais des émotions de manière très abstraite, très métaphorique, etc. Aujourd'hui, j'essaye de plus m'exprimer, donc le podcast en fait partie. Moi, dans mes interactions aussi, en fait partie, et d'assumer mes désirs. Tu vois, je disais tout à l'heure, c'est en blaguant, mais le polyamour, j'ai mis du temps avant d'y arriver aussi, d'assumer que je voulais ce type de relation-là, etc. Donc, c'est toujours en cours.
Et puis c'est dur aussi le polyamour, dans le sens où il faut travailler sur ses propres insécurités, sur ta propre jalousie potentielle, l'idée que c'est ta meuf et elle t'appartient à toi, quoi.
Ouais, mais tu vois, ça, je le fais aussi entre guillemets publiquement. Je fais tout publiquement, en fait, faut que j'arrête. Tu vois, sur les questions de jalousie, j'ai pas encore atteint le stade de la compersion ultime. Donc la compersion l'inverse de la jalousie, qui est de prendre du plaisir au fait de voir l'autre prendre du plaisir, même si tu n'en es pas à l'origine. Et ça m'arrive encore de me taper des coups de jalousie, mais plutôt que de dire « Ah, faut que je lutte contre ça, je suis pas jaloux, je suis polyamoureux », je vais aller dire à la meuf, en fait, hier t'étais sûrement avec un mec parce que t'as pas répondu à mon texto, et c'est cool, mais j'ai ressenti une pointe de jalousie, je veux pas la ressentir, et donc de déconstruire un peu avec elle, sans lui faire poser la charge à elle, me dire « Ok, je suis pas encore... J'ai pas encore atteint l'éveil polyamoureux, quoi. »
Mais la question de la jalousie en polyamour, moi j'avais testé, mais c'est dans des très mauvaises conditions, le polyamour, et c'était très très difficile, quoi. C'est ce côté compersion, je crois fondamentalement que ça existe, mais par contre j'ai l'impression que j'en serais jamais capable, quoi.
Mais alors, toi, t'avais ouvert ton couple, ce qui est pas pareil quand même, parce que t'as 5 ans en couple, et l'ouvrir, c'est vraiment pas pareil. Ouais. Moi, j'ai commencé mes relations en polyamour, là.
Ouais, et puis polyamour, c'est pas la même chose qu'un couple ouvert, effectivement. Parce qu'il y a quand même une hiérarchisation des relations.
Dans le polyamour aussi, vraiment, c'est tellement...
Il y a autant de polyamour que de polyamoureux, j'ai l'impression.
C'est très fluide.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est, je crois. C'est pas parce que c'est beau que c'est faux. C'est tout ce qui rime.
Mais c'est juste, le polyamour, en termes de masculinité, ça te fait aussi remettre en question... Enfin, moi, en tout cas, ça me fait remettre en question certains trucs. J'ai réalisé récemment que quand une des meufs que je voyais était avec un autre homme, il y a quand même ce côté de oh, elle est à moi, qu'est-ce qu'elle fait de partager son intimité, et puis tu vois, des questions sexuelles aussi qui se posent et tout.
Est-ce qu'il a une plus grosse bite que moi?
Ouais, non, mais même de dire il est rentré au même endroit, et c'est pas cool.
Ou même il est rentré là où je suis pas rentré.
Oh, c'est possible.
Okay.
Fais voir ton nez. Non, mais le mec il veut rentrer à des endroits spécialement.
Non, c'est mon exclusivité.
Personne n'est rentré sous ta paupière. Super. Très petit pénis, voilà. Non mais et j'ai réalisé que la compersion, ça venait aussi du fait que si elle, elle kiffe avoir passé ce moment avec cet autre homme, elle va me revenir aussi quelque part encore plus heureuse, ce qui fait que moi je suis encore plus heureux pour elle, mais aussi pour les autres femmes que je vois. Et quelque part, en la rendant plus heureuse, elle, elle va retourner vers ces autres hommes en les rendant plus heureux. Et il y a un truc de, alors je sais que ça fait un peu allumé de dire ça, mais de bienveillance, tu vois, de ricochet de bienveillance et d'apaisement. Et c'est comme ça que moi, petit à petit, je viens à la compersion. Mais au début, c'est un modèle très théorique, et plus ça va, plus je le vis. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Je crois aussi qu'on a perdu pas mal de mecs qui nous écoutent et qui doivent peut-être potentiellement péter des câbles, tu vois, en t'écoutant. De mecs et de meufs, d'ailleurs, parce que je crois... Non, mais c'est un truc qui est pas encore du tout rentré dans les mœurs, si tu veux. Et je crois que le modèle actuel, et je te dis pas ça pour parce qu'on en parle pas, hein, tu vois, mais c'est juste pour remettre un peu le truc de, en fait, c'est pas simple, je crois, de faire le cheminement que t'es en train de faire. J'ai un peu l'impression que les gens qui sont monogames, si tu veux, ils ont toujours du mal avec les gens qui s'expriment en tant que polyamoureux, tu vois, ou parce que il y a toujours un peu cette sensation on est supérieur à, enfin tu vois, en gros on est supérieur à vous, quoi, tu vois, parce qu'on a dépassé un peu le modèle de base, mais en fait j'ai envie de dire on s'en fout, c'est pas ça, il y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Ce qui est intéressant, je crois, c'est de se demander si quand vous écoutez les garçons parler de couple libre ou de polyamour, qu'est-ce qui fait que ça vous chatouille en vous. Ça, c'est intéressant, je trouve.
Ouais, alors désolé, je voulais perdre personne, mais exemple, moi je parle à...
Ouais, je sais, t'inquiète.
Pile est tombé à l'intérieur du tonneau. On dirait une fable.
Fable de merde.
je parle encore. Et il y a deux jours, je parlais avec une collègue qui est très heureuse en couple pour comprendre. Parce que je n'ai aucune idée de ce que. Enfin, si je suis en train de faire est vraiment mon bonheur ultime. J'ai vraiment aucune idée. Je fais que cheminer. Ça se trouve, le couple monogame, j'y reviendrai avec grande joie, mais après avoir fait ce détour-là. Mais je continue et jamais je le présente en mode j'ai compris le mode ultime. C'est juste, j'en suis là, ça me rend heureux pour l'instant, mais elle a l'air tellement heureuse que je veux comprendre comment elle a atteint le bonheur aussi, quoi. Ça reste une discussion.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, à aucun moment, c'est un choix que tu fais qui est immuable, quoi. Tu peux être polyamoureux et très heureux pendant 50 ans, comme pendant un an, revenir à la monogamie ou à l'inverse, revenir au polyamour ou à d'autres choses entre les deux. C'est ça qui est, enfin, le biais que t'énonces, qui était intéressant, de dire que les gens sentent un jugement quand ils parlent à quelqu'un qui évoque ce genre de déconstruction. Et c'est vrai sur tous les sujets, parce qu'on pourrait faire ça, dire la même chose des grands écologistes il y a 20 ans, des féministes, des véganes, enfin, de toutes ces choses-là. C'est pas un changement du tout au tout, c'est pas un interrupteur sur lequel t'appuies et t'auras plus jamais la lumière à l'endroit d'où tu viens, quoi. Et la déconstruction des choix et de se dire qu'on peut aussi revenir en arrière si ça nous va pas, c'est ce qui permettra, je pense, à ces gens un peu réfractaires ou à n'importe quel type de discours, de se dire ah ouais, mais en fait je peux très bien essayer pas aimer, ou je peux juste pas être d'accord avec la personne en face, et c'est pas pour autant qu'elle a tort.
Donc tout à l'heure, tu évoquais le mansplaining. Je vous ai entendu parler à plusieurs reprises de domination, etc., etc. Est-ce qu'il y a en vous une pointe de culpabilité, comme pas mal de mecs trentenaires, sur le fait d'être des mecs?
Moi, absolument pas.
Ok.
Et en disant ça, j'ai un peu peur de mettre des gens à dos, mais je vois pas ce que la culpabilité m'apporterait de plus. Pour moi, c'est pas le meilleur des moteurs. Ça biaise. Alors, j'y avais jamais vraiment réfléchi, donc je tâtonne en te répondant, mais je préfère essayer de comprendre ce qui est décrié ou les problèmes qu'on me présente, et de me dire ah bah c'est vrai. Voyons comment moi je peux faire pour participer à ça. Plutôt que de me dire ah je suis un gros dégueulasse et en fait je sais pas, j'ai du mal à répondre à la question, mais je me sens pas coupable. Par contre, je me sens coupable dans mon expérience de certaines choses que j'ai faites sans m'en rendre compte, qui aujourd'hui, enfin, quand je me regarde 10 ans en arrière, je me dis bah ouais, en fait j'étais vraiment border sur plein de sujets et je regrette. Et encore récemment, il y a des trucs que j'ai fait où là je m'en veux très personnellement, mais c'est pas tant être mec qui me perturbe, c'est d'avoir intégré des trucs sans sans m'en rendre compte, sans avoir pris de recul. Je sais pas si c'est très clair.
Moi, je comprends très bien ton point de vue sur le côté la culpabilité va rien ajouter au débat, en fait. Mais moi, dans mon cas, en tout cas, c'est pas le fait de me dire ça m'empêche pas de, enfin, me permet pas de pas ressentir de culpabilité. Et pour le coup, bah, pour répondre à ta question,
pose bien ton.
Pardon. Ouais.
Ha. Parce qu'il fait ça dans le podcast, donc c'est cool. De...
pour répondre à ta question, du coup, moi, pour le coup, je me suis absolument toujours senti coupable. Pas coupable dans le sens je peux faire autrement, parce que bon bah c'est une culpabilité un peu subie, parce que j'ai toujours constaté mes facilités en tant qu'homme, mais depuis que je suis vraiment petit, j'ai grandi avec deux sœurs, et c'était évident qu'on n'était pas logés à la même enseigne sur plein de trucs, mais que ce soit à commencer par l'éducation de nos parents, en continuant par le système scolaire, par les études post-bac, par les relations amoureuses, par la vie professionnelle. C'était évident que j'étais beaucoup mieux loti qu'elle sur tous les aspects de la vie.
T'étais l'aîné ?
Non, je suis au milieu.
Ok.
Donc pile poil entre les deux. Et ouais, c'est évident. Et puis même avec du coup le fait d'avoir grandi avec des sœurs, des cousines, tout ça, j'ai toujours été naturellement très facilement ami avec des meufs. Et j'ai eu plus dans mon cercle de proches des filles que des mecs. Et à chaque fois, je constatais la facilité de ma vie, mais sur tous les plans par rapport à la leur, quoi. Et c'est vrai que je culpabilise un peu, et souvent je cache ma culpabilité derrière de l'humour, et ça m'arrive souvent de dire c'est même pas une blague, mais dire moi je suis un mâle blanc hétéro cisgenre, quoi, donc ça je connais pas.
Mais même il y a 15 piges, je veux dire, même quand t'avais 15 ans, vous avez quel âge?
J'ai 27 ans, moi.
Ouais, c'est ça, et 27 et 30.
Oui, alors après...
Quand t'étais ado?
Quand j'étais ado, j'étais pas en mode « Oh mon Dieu, je culpabilise à cause du patriarcat et machin ». J'étais juste en mode « Ah ouais, c'est marrant, mes parents, ils étaient beaucoup plus stricts avec ma grande sœur sur les sorties que moi, par exemple. » Ou alors « Ah, c'est marrant, ma sœur a vécu telle situation violente avec un mec à l'époque. Moi, j'ai jamais vécu ça avec une meuf. » Des petites choses comme ça. J'étais pas dans une culpabilité très conscientisée non plus. Mais je savais que j'avais de la chance d'être un mec, quoi.
Et juste pour compléter ma réponse, je me sens pas coupable. Vraiment, c'est pas un sentiment que j'ai. Par contre, je me sens en colère. Et peut-être que ça cache de la culpabilité, j'en sais rien. Peut-être que j'ai pas suffisamment creusé. Mais tout de suite, moi, quand je constate une injustice, je vais essayer de mettre en place une action ou d'en parler peut-être la culpabilité est tellement furtive que je la vois pas et que je passe tout de suite dans la colère et dans le fait d'essayer de réparer quelque chose ça m'arrive aussi sur d'autres causes je suis antispéciste et vraiment j'ai le combo du gros connard parisien, c'est polyamoureux, antispéciste, féministe, mais bon bref,
la meilleure description Tinder.
mais du coup quand je vois comment on traite les animaux, etc., ça me révolte tout de suite, de la même manière que quand je vois que d'autres classes dominées sont traitées, ça me révolte tout de suite. Mais c'est vrai que le sentiment de culpabilité, je l'ai pas conscientisé, en tout cas.
Ok. Parce que tu vois, de base, quand tu viens dire moi je pense ça, mais c'est pas du mansplaining, tu vois. J'avais un peu envie de te dire t'as quand même le droit de t'exprimer, puis surtout tu le fais dans ce podcast, quoi, tu vois. Donc c'est étonnant que t'aies tout de suite pris ce truc. Alors en plus, pour info, je crois que le mansplaining, c'est un truc qui est vraiment très spécifique dans le militantisme, où c'est des mecs qui viennent expliquer à des féministes comment elles devraient militer, quoi. En plus, c'est un truc vraiment...
Ouais, c'est ça. Mecs qui expliquent à des meufs un sujet qu'elles connaissent mieux qu'eux, quoi.
Mais ça s'y prêtait, tu vois, avec Mise à Mal, on voulait pas faire du mansplaining en disant « Vous n'avez pas compris, on vient compléter votre propos. »
Bah, vous parlez de votre expérience.
Oui, oui, mais c'est...
Donc vous vous êtes pas en train de dire à des meufs « Voilà comment vous devriez vivre. » Tu vois, vous, au contraire. Vous êtes en train de dire « Bah voilà, nous, comment on vit. »
Bah exactement, ouais. Nous, c'est un témoignage, en fait.
C'est ça.
Mais c'est là que tu vois que, moi encore, sur ces sujets-là, je suis assez immature sur... je sais pas encore où placer le curseur est-ce que j'ai...
Est-ce que t'as le droit de dire ce que tu ressens
En fait, c'est difficile quand ce que tu ressens est lié quand même à une condition que t'as pas totalement déconstruite jusqu'au bout. Il y a des trucs que je ressens aujourd'hui où, pour le coup, oui, je vais avoir honte de certains trucs. Et c'est difficile de le dire à l'antenne parce que des fois, la limite, elle est fine entre justifier ou dénoncer. Enfin, il y a des trucs que je constate dans mon expérience où en parler, ça pourrait les légitimer, alors que pas du tout. Je voudrais juste dire, je suis pas fier de ce qui est arrivé, mais c'est arrivé et j'essaie de le déconstruire. Enfin. Tu vois,
c'est une bonne façon de faire, je crois.
Écoute.
Non.
En fait, ce qui est intéressant dans la manière de réagir de Flo, je trouve, c'est que ça met le doigt sur quelque chose qui est au cœur de la création du podcast, c'est que, enfin, je sais pas toi, mais moi en tout cas, j'ai eu assez peur dans la façon qu'on se positionne à vraiment froisser personne, et surtout bah, les femmes, hein, bien entendu. Et je pense que sur bien des aspects, nous on a eu des retours très bienveillants, d'énormément de filles en plus, mais sur bien des aspects, je pense qu'on est très très exigeant et en fait on est très critique, on veut vraiment... ouais, on avait l'impression de marcher un peu sur des œufs et on voulait en casser zéro, quoi. Et je trouve pas le bon mot, mais c'est pas exigeant, mais on a été très prévoyant, très exigeant dans la façon à chaque fois de nous exprimer. Alors qu'en fait, si on mettait le curseur deux niveaux plus bas, ça passait aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Mmh. Et surtout, je me dis, est-ce que vous auto-censurez pas dans justement ce truc de libération de la parole des mecs? Est-ce que le fait de vous dire ok en fait il y a des meufs qui nous écoutent et peut-être en fait qu'il faut froisser personne, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tirer une balle dans le pied dans votre concept, dans le sens où je crois que dans ce podcast il y a des mecs qui ont dit des trucs avec lesquels j'étais pas d'accord moi, mais je trouve que c'est hyper important de le dire et de les laisser le dire en fait, parce que sinon on s'en sortira pas. Et en fait parfois il y a des femmes qui réagissent et qui disent putain mais c'est inadmissible ce qu'il vient dire et tout, ouais, mais enfin en attendant c'est quand même la vie de ce mec, et je crois que c'est pas en lui disant chut tais-toi, tu peux pas dire ça quoi, tu vois, que ça va régler le problème. Au contraire, c'est plutôt en combattant les idées, en essayant de creuser et de lui dire bah tiens c'est intéressant ça ce que tu dis, pourquoi tu dis ça. Et en fait, je trouve qu'en plus, comme vous êtes tous les deux dans ce podcast-là, vous êtes des potes, vous êtes bienveillants l'un envers l'autre, bah, c'est d'autant plus cool, je crois, de ne pas hésiter à creuser et de vous dire bah, peut-être qu'on va dire des trucs qui vont peut-être froisser quelques meufs. Est-ce que c'est si grave que ça? Parce que c'est votre vécu, quoi, après tout.
Je prendrai cet extrait, je le mettrai en trigger warning de tous les mises à mal, si tu veux bien. Non, mais blague à part, c'est pour répondre à ta question, c'est sûr qu'on se censure et on en est les premiers désolés quand on s'en rend compte en réécoutant à quel point il y a des trucs où on se lisse, où on dit pas tout. Il y a même des moments où on coupe les micros et on remarque le changement de ton et on se dit merde, c'est ça qu'on aurait dû. On aurait dû laisser les micros allumés pour dire ce genre de trucs, mais c'est aussi en se rendant compte de cette distance-là que épisode après épisode, même j'ai réécouté les épisodes de la saison 1, on était beaucoup plus polis sur ce qu'on disait, politiquement correct. Là, sur la saison 2, on essaye de livrer des trucs un peu plus... tu vois, le fait d'assumer qu'on cheminait en parlant, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas assumé en saison 1 déjà. Exactement. Et ça nous a énormément libérés. Et oui, on se censure et on essaye à chaque fois d'aller un peu plus loin dans la réflexion, quoi.
C'est ça. Et on essaye... Enfin... Pour moi, la censure, elle passe souvent aussi par l'humour, ce qui nous permet quand même de dire des choses et d'apporter un peu de pommade aussi avec. Et donc, quelque part, il y a de la censure, mais il y a quand même tout, enfin beaucoup de choses, pas tout, mais beaucoup de choses qui passent dans le podcast. C'est aussi la force de l'humour, parce qu'en fait, avec un podcast plus...
léger.
C'était pas du tout léger. Un podcast plus scientifique, on va dire. On pourrait. Pardon.
Gouléant.
Tous les mots qui marchent pas. Un podcast un peu plus gouléant. Voilà. On pourrait pas se permettre tout ça. Mais bien sûr qu'on se censure. En fait, il y a tellement de niveaux. Déjà, il y a le montage qui est une première fois. Enfin, non, même avant le montage, nous, quand on s'exprime. Enfin, je sais pas toi, Flo, mais il y a des choses où je pense à la formulation. On va faire attention à prendre des pincettes. Ensuite, il y a le montage. Ensuite, il y a l'humour et le second degré.
Mais même avant ça, le premier filtre, c'est nous, quoi. Genre, on est, et tu le disais tout à l'heure, Fabrice, mais on est dans des cercles extrêmement restreints. Tous les deux avec Théo, on est à peu près dans le même état d'esprit, ce qui est une énorme limite. Et en fait, ce qu'on veut faire, et on commence à le faire avec la saison 2, c'est à inviter des gens qui ne sont pas dans nos cercles. On commence à le faire, là, d'avoir des gens qui ne sont pas des amis directs, mais des amis d'amis ou des rencontres qu'on fait au gré d'Instagram, etc. On le veut encore plus présent dans la saison 3 et encore plus dans la saison 4. On veut qu'il y ait, des gens qui ne partagent pas nos avis et qui font ce qu'ils font dans ton podcast, c'est de dire des trucs où tu serais pas d'accord, mais leur donner la parole et d'en discuter, c'est déjà le premier pas. On veut pas juste que ça se transforme en dîner de cons, de genre bah t'as rien compris
non,
à la vie.
Non.
Mais okay. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en venant, on parlait de faire un disclaimer pour expliquer ce côté justement cheminement en fait, et dire vous allez entendre dans ce podcast des témoignages qui sont parfois misogynes en fait, ça peut arriver, ou plein de choses qui sont pas en accord avec votre façon de voir le monde, et c'est tant mieux parce qu'en fait c'est des points de départ, et le but du podcast c'est de cheminer et d'aller de l'avant. Et moi, c'est une métaphore que j'utilise tout le temps, mais l'important c'est la distance qui est parcourue entre un point A et un point B, et pas où se situe le point B sur une échelle de valeurs féministes, en fait. Voilà, l'idée, c'est d'aller le plus loin possible, de parcourir. Si on prend la caricature du mec masculiniste qu'on l'invite dans le podcast et qui ressort en ayant fait 50% du chemin jusqu'à des gens plus lambda, c'est déjà énorme, en fait. Et il vaut mieux faire ça que d'avoir fait monter d'un demi-millimètre quelqu'un qui est déjà ultra engagé dans toutes ces sphères-là.
Et entendez-moi bien, hein, c'est pas une critique, hein, parce que je considère que vous êtes des héros de la masculinité, hein, les mecs, tu vois. Le simple fait. Non, mais vraiment. En fait, le simple fait de décider de faire un podcast sur la masculinité, déjà, c'est un truc chelou, quoi, tu vois, par rapport aux mecs qui peut y avoir autour de vous. Donc, déjà, ça, c'est très cool. Moi, le premier, quand on a démarré ce podcast avec Mimi à l'époque, c'était elle qui avait eu l'initiative du truc. Moi, je me suis fait inviter comme co-host parce que, en creusant un peu les premiers invités, elle s'est rendue compte que si elle était toute seule face à un mec, les mecs n'allaient pas lui parler, quoi. Donc, il y a eu des invités qui ne me regardaient que moi, alors que elle, c'était elle qui lidait l'interview. Et en fait, les mecs ne la regardaient pas quand ils répondaient, ils me parlaient à moi. Et moi, j'étais là, oui, enfin, ok, mais t'es en train.
Tu te mettais le plus près d'elle pour qu'ils la regardent.
Non,
elle, comme
bah
ça.
Non, parce qu'en fait, c'était leur cheminement à eux, tu vois, et en fait, il fallait respecter ça. Et en fait, quand je me suis retrouvé à avoir l'opportunité de reprendre le podcast tout seul, j'avais la trouille. Je ne voulais pas le faire. C'était un truc, alors que j'ai fait parler des mecs de paternité depuis des années, etc. Mais alors, sur la masculinité, je me disais, mais je ne sais pas. J'ai l'impression d'être assis sur un sac de poudre, des tonneaux de dynamite, si tu veux. C'est chaud, quoi.
Bah, pour la petite anecdote, nous, quand on a lancé le podcast, on s'est mis 2 semaines sur Twitter. Voilà, on a arrêté après. La fin de l'anecdote.
Pourquoi?
Non, en fait, on avait bossé un petit message de présentation, juste un thread. En plus, on est nuls sur Twitter, donc c'est pas du tout dans notre nature. Mais pour expliquer ce qu'était le podcast, et je crois qu'il y a un mot, je saurais même plus dire le cas.
Apolitique. C'était le mot apolitique.
Ah ouais, on a dit qu'on était un podcast apolitique. Qui parlait
ce
de
qui est politique déjà de dire ça.
Ouais.
Mais bon.
Et c'était ça, ouais. Podcast apolitique qui parle de masculinité, enfin voilà. Et en fait,
Pourquoi vous avez utilisé ce mot?
Ben, parce que je pense qu'on revient sur le truc, on avait peur. On avait soit une forme de culpabilité, soit une forme de peur, que sais-je, mais on avait ce truc où nous, on voulait dire, en fait, c'est marrant, mais on n'avait pas encore fixé ce qu'on était, et donc on a dit ce qu'on n'était pas.
On voulait faire, comment on fait pour se mouiller le moins possible? Alors, ok, on est neutre, on est apolitique, on est suisse, mais en même temps un peu.
Ding, ding, ding! Et c'est le bingo de Twitter. Non, mais en fait, au lieu de dire, c'est un apéro entre potes où on va dire un peu de la merde, mais il faut que ça soit dit. C'est à peu près notre description aujourd'hui.
Ouais.
C'était vraiment un truc très scientifique, genre apolitique, où on déconstruit les préjugés sur la masculinité.
Et donc vous vous êtes fait...
On s'est fait lyncher à la sauce Twitter. Sur l'échelle de lynchage Twitter, on était vraiment à 1 sur 10, hein, je pense. Mais...
Ouais, mais avec 5 followers, on s'est déjà pris des bâches.
Mais c'était déjà assez véhément. Et en plus, moi, c'est un retour que je comprends maintenant, aujourd'hui, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on parle de masculinité, ben, on est déjà un peu politisé, parce qu'on... On a pour but de faire avancer la chose publique, quoi, tout simplement. Mais ouais, on s'est pris des bonnes bâches. Et puis, en plus, il y avait des trucs qui étaient très frustrants, quoi. Des comptes qui étaient privés, du coup, qui se permettaient de nous retweeter. Et il y avait un compte d'une meuf qui était...
C'est Twitter, quoi.
Ouais, mais qui était assez bien... Enfin, qui avait beaucoup de followers, beaucoup de visibilité. Et c'est une pote à moi qui a vu son retweet parce qu'elle avait été acceptée par cette meuf-là. Et du coup, elle nous critiquait ouvertement, mais genre, on n'avait pas l'info, quoi.
Bah oui.
Et c'était ultra frustrant. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, Twitter, c'est pas nous. Juste, on l'utilise pas personnellement. On va pas l'utiliser pour le podcast juste parce que c'est Twitter, quoi. Et du coup, on a lâché Twitter aussi vite que c'est venu, quoi.
Vous parlez d'ailleurs énormément de votre cheminement. Du fait que quand vous réécoutez vos épisodes d'il y a un an et demi, vous... Bah déjà, c'est quoi votre regard sur votre vous d'il y a un an et demi?
Je réfléchis.
Ouais, c'est une bonne question. Ah, il est fort.
Bah, alors, moi, il y a des trucs spécifiquement qu'on peut affilier masculin que j'assume aujourd'hui. Mais en fait... J'ai tu vois, je fais beaucoup de sport, j'accepte d'avoir beaucoup de relations, enfin des trucs que j'assumais pas spécialement.
De relations genre amoureuses.
Relations amoureuses ou relations sexuelles. Tu vois, il y avait ce truc de si je veux être un homme gentil, il faut pas trop que je couche partout et tout ça. Aujourd'hui, c'est pas tant que je veux coucher partout, c'est juste que ça me rend heureux de rencontrer des femmes et d'être intime avec elles en leur expliquant dans quel mode je me trouve, etc. Mais il y a ce truc de j'ai accepté des attributs de la masculinité que je rejetais beaucoup plus avant. Ça, c'est un des premiers points.
Et pourquoi tu les rejetais avant?
Parce que j'avais peur de... Comment dire? C'est une bonne question. Je pense que j'avais peur de prendre la place de quelqu'un d'autre ou de dominer à mon insu ou d'être toxique sans m'en rendre compte. Et donc, du coup, la stratégie que j'avais, c'était de me limiter, de me réduire un peu, de pas tout dire, de pas faire ce qui était vraiment moi, donc de me frustrer. Et donc, meilleur ingrédient pour péter un câble de manière toxique au bout d'un moment, quoi. Mais j'avais assez peur, ouais, d'être une mauvaise influence. Et donc, du coup, je limitais des trucs qu'on m'avait appris comme pouvant être potentiellement toxique. Alors qu'aujourd'hui, j'ai fait un peu une circonvolution, je suis revenu sur des attributs masculins que j'ai déconstruits et que j'ai repris à mon compte. Et ouais, en fait...
Comment t'as fait ?
Bah, c'est vraiment en parlant et en voyant surtout ce que ça me procure comme émotion. Je vais prendre un exemple sur la muscu, qui est un truc extrêmement... affilié, masculin, viriliste, tout ça.
T'es un gros muscu, quoi.
Ouais, gros muscu.
Qui c'est qui fait la grosse voix ? C'est toi ?
C'est nous deux.
Ah. Alors, mise à mal.
Ah oui.
Ouais, toi tu fais une plus grande. Mise à mal.
Tu fais très bien aussi. Hein.
Bah ouais, mais
qui fait Batman.
C'est moi
qui fais Batman.
Mise à mal.
Ouais, voilà.
Ça, moi j'y arrive pas. On va essayer.
Mais on a fait un tuto, on peut vous faire un tuto si vous voulez. En live stream. Un truc insupportable.
Bienvenue.
En fait, j'étais extrêmement maigre. Je faisais 52 kilos pour 1m76. Enfin, vraiment très maigre. Et c'est en réalisant que je n'aimais pas mon image, je me sentais pas à l'aise dans mon corps, même je savais pas comment me mouvoir, je savais pas comment... j'aimais pas me mettre nu, j'aimais pas... Enfin bref. Donc, déjà en constatant mon malaise, première étape. Et après, en me demandant qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel est l'objectif, et si un moyen c'est la muscu, comment je me réapproprie. Et qu'est-ce que ça me permet de faire? Et un truc tout con, c'est de connecter ce que tu fais, enfin ce que je fais, avec une émotion ou un but très personnel. Et pour la muscu, c'est pas être musclé. Mon but, c'est très bizarre, mais c'est de sentir le poids de mon corps. C'est de me sentir habité dans l'espace. Ce que j'avais pas osé faire jusque-là. Et donc, du coup, je vais à la muscu avec plaisir, avec des mecs qui sont des gomuscus typiques, qui regardent leur pec gonflé et tout ça. Mais parce que moi, je suis là pour un autre objectif. Et on peut partager la même passion et c'est complètement OK d'être dans cet univers.
On partage la même passion, mais on n'a pas le même maillot, c'est ça?
Oui, c'est
on n'a pas le même maillot.
À peu près ça.
Facile. OK. Et toi, de ton côté?
Alors moi, c'est le début est très proche de ce que dit Flo. Le mot-clé, c'est assumer. Il y a un an et demi, je n'assumais pas en fait d'être un homme. Et même, tu vois, quand on en parlait justement de plus dans mon enfance, je me suis toujours construit avec la peur d'être un homme parce que c'était quelque chose qui pouvait faire du mal, enfin qui faisait du mal à mes potes meufs. Enfin, c'est quelque chose que je voyais très négatif. Pour moi, le stéréotype de l'homme, c'est le même mec qui était un gros bully au collège, tu vois, et qui me faisait peur à l'époque. Enfin, et par exemple, c'est pas un hasard si le tout premier épisode du podcast, c'est sur faire le premier pas. Moi, j'étais paralysé à l'idée de me comporter comme un homme avec une meuf, de d'oser l'embrasser, parce que pour moi, faire le premier pas et embrasser une meuf, c'était forcément sans son consentement, en fait, parce que tu te demandes pas est-ce que je peux t'embrasser, enfin c'est très mal, enfin c'est, ça casse le truc, quoi. Et il y a beaucoup de choses comme ça, et ça c'est juste un exemple, mais que j'ai réussi à devenir, à assumer d'être un homme, quoi, et à avoir des, même sur la façon dont je me comporte dans l'intimité avec une fille ou au lit, enfin, d'assumer mes désirs, mes besoins, et c'est pas encore, c'est loin d'être parfait, et il y a plein de choses que j'assume pas encore, et j'aimerais assumer, et par exemple, j'ai toujours pas réussi à pleurer, tu vois, alors que pour moi, c'est quelque chose qui me manque, quoi, de pas réussir à pleurer, et il y a plein de choses où petit à petit, j'assume certaines actions que, il y a deux ans de ça en arrière, je les aurais pas faites, non pas parce que je les aurais mal jugées, mais parce que je me serais dit, moi je suis pas comme ça, moi je suis pas le mec qui va prendre violemment sa partenaire et la tirer par les cheveux, ou c'est moi je suis pas le mec qui va plaquer une meuf contre un mur pour l'embrasser passionnément parce que le consentement c'est trop important quoi. Et là ça a changé assez vite et j'ai fait
t'es devenu un prédateur sexuel, bravo.
Exactement.
Il a embrassé 6 meufs sur le chemin, moi je l'ai vu, j'étais là, je peux témoigner.
Non genre, heureusement c'est plutôt bien passé.
Il précise salut.
Non, il y en avait que 5.
5 et demi.
Oh. Une cul de jatte.
C'est validiste.
Et du coup, ouais, j'ai réussi. Et encore, j'en suis très loin. Il y a plein d'autres choses que j'aimerais assumer de faire comme un mec et que j'arrive pas encore.
Comment donc... Pardon, je t'ai coupé. Je pensais que t'avais terminé.
Non, mais là, je pense que c'était bon. Il y a plein de choses que j'assume, que j'aimerais assumer en tant que mec et que j'arrive pas encore. Et ça viendra.
Comment t'as fait? C'est la même question que pour.
Alors, moi, donc, forcément, le podcast, c'est en parler. Par exemple, je sais que vraiment le changement le plus drastique, c'est sur le premier pas et le fait d'embrasser une fille à un date. Et je me suis lancé une fois, puis j'ai vu que ça s'était bien passé, puis deux fois et machin. Et en fait, je me suis jamais.
Mais alors, comment t'as fait? C'est parce que non, mais donne un alors, tips pour les plus jeunes qui nous écoutent.
En parallèle du podcast, j'ai fait moi un coaching de développement personnel et de la sophro pendant. J'ai fait 3 séances, mais avec une coach qui était plutôt bien et ça a déconcé pas mal de trucs. Et après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la pub Lacoste du premier baiser. J'en parle dans l'épisode justement. Je sais pas si tu vois, c'est un mec qui s'embrasse sur un mec et une meuf qui s'embrasse sur un toit et en fait il y a tout qui tombe, ils tombent dans le vide, ils sont en apesanteur et tout et c'est une musique ultra intense. Et je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est un saut dans le vide et t'as pas le choix si tu veux savoir si t'atterris, il faut que tu sautes dans le vide sinon tu sauras jamais. Et à maintenant, enfin à chaque fois que c'est mon premier bisou avec une meuf, j'ai la musique de la pub dans la tête. Voilà.
Mais juste pour poursuivre sur comment on fait, je pense que la première étape c'est de conscientiser où est le malaise, où est l'émotion en tout cas. Et après, il y a quand même une notion de tenter. Moi je pense que j'ai beaucoup tenté et tenté en acceptant le feedback. Jamais tenté en se disant j'ai compris. Disant en acceptant le feedback de toi, il y a des trucs que tu vas faire. Enfin, moi, il y a des trucs que j'ai fait, j'étais hyper mal à l'aise. Je fais, plus jamais je fais ça en fait. Je suis pas bien. Peut-être que la personne en face a kiffé, mais moi, je suis pas bien. Et accepter le feedback de l'autre, c'est de dire bon là en fait non pas cool. Et d'itérer là-dessus, enfin de vraiment.
D'itérer.
Pardon. Startup Nation. De
t'améliorer.
De t'améliorer. Tout à fait.
Vous invitez des meufs aussi dans votre podcast, ce qui est un move vraiment.
C'est-à-dire?
C'est une vraie décision politique, je trouve, d'inviter des meufs. Par exemple, ce fameux épisode dont vous m'avez parlé, là, qui est le premier que j'ai écouté sur la capote, il y a une de vos potes, je crois, qui est avec, et qui donne son feedback de meuf. Comment vous arrivez à avoir une discussion honnête entre mecs, alors qu'il y a une tierce personne qui est une meuf?
Alors au début, les meufs qu'on a invitées, c'était vraiment des meufs qui étaient soit qu'on connaissait tous les deux, soit qui étaient très amies avec l'un des deux. Donc il y avait quand même ce safe space, quoi qu'il arrive. Genre moi, les invités qui ont été invités par Flo, je sais qu'il les a validés, donc il y a pas de souci. Et sur la première saison, en tout cas moi, ça m'aidait vachement à me livrer. En mode bon, je sais qu'en fait, même si c'est une meuf, si elle se marre aux blagues de Flo, on va bien s'entendre, c'est sûr quoi. Et sur la deuxième saison, je trouve qu'on a commencé à inviter des meufs qui sont un peu plus lointaines entre guillemets, des amis d'amis où il y a des personnes qu'on n'avait pas rencontrées avant, mais avec l'habitude de parler avec des meufs de ces sujets-là et d'assumer aussi de plus en plus le positionnement du podcast, je trouve qu'on s'en sort bien en fait. On arrive à aborder tous ces sujets-là. Et en fait, sur le début de pourquoi on a voulu inviter des meufs, c'est tout simplement parce que elles avaient leur avis à dire sur les questions. Et nous, par exemple, moi, sur le sujet de, je sais pas, on a fait sur les tout ce qui était éjaculation faciale, j'étais ultra curieux d'avoir des feedbacks de meufs. Et enfin, moi, ça, c'est juste mon interprétation. Tu me diras ce que t'en penses, Flo, mais je reviens sur ce côté. On avait parfois plus peur que nécessaire sur ces sujets-là. Et il y a plein de sujets où j'étais content d'avoir l'avis d'une meuf parce que ça me rassurait sur plein de trucs. Des trucs où je disais, non, mais si je t'embrasse alors que je t'ai pas demandé ton avis, est-ce que ça pose problème et tout? Et d'avoir une meuf en face qui me dit, non, mais tranquille, tu vas le sentir, le mood, l'atmosphère. Enfin, ça m'a fait un bien fou, moi, perso.
C'est vrai qu'il y a cet élément de confiance. On a confiance en elle, donc du coup on peut se livrer. C'est des amis, donc ça c'est ok. Mais il y a aussi, fait, ce qu'on essaie de faire est plus important que la gêne qu'on peut éprouver en parlant. Donc, ça nous aide aussi à. C'est vrai, tu rigoles.
Non, mais c'est complètement vrai, quoi. C'est, on est prêt à se ridiculiser s'il le faut. Mais...
Ouais, et prêt aussi à écouter. C'est encore cette notion de feedback, de retour. C'est, on est prêt à écouter si elle est pas d'accord ou. Et Alba, elle avait des, enfin, dans l'épisode sur la contraception, elle avait des interventions. Elle disait, je suis pas d'accord. Et elle disait, bah, pourquoi? Trop bien. Dis-nous pourquoi. Et peut-être qu'on sera d'accord d'être pas d'accord. C'est, du moins qu'il y a de la bienveillance, c'est ok. Et sur, c'est vrai que sur, bah, tu vois, quand tu disais comment on fait pour se déconstruire, comment on fait pour apprendre, l'épisode sur l'éjaculation qu'on a fait en saison 1, moi, j'assumais pas certaines pratiques sexuelles. Le fait d'entendre une fille dire, moi, je préfère qu'on m'éjacule dessus qu'à l'intérieur, ça, j'avais jamais réalisé que ça pouvait être vachement intrusif d'éjaculer dans une femme plutôt que dessus. J'avais toujours eu le rapport inverse et donc ça m'a débloqué un truc dans le cerveau. Qui, je me dis pas que je vais éjaculer sur tout le monde maintenant.
Il a éjaculé sur 5 personnes dans la rue.
5 personnes et demie.
Après que je les ai embrassées.
Vous faites un très chouette duo.
Le pire combo des rues de Paris, quoi. Tout le monde a peur.
Écoutez notre podcast,
s'il vous plaît.
On leur colle pour faire la pub.
On leur colle des stickers mis à mal en partant après.
Ouais, c'est pas de la colle.
C'est. Toujours plus loin. Donc voilà, c'est aussi cette franche curiosité de se dire on va apprendre quelque chose et c'est ça qui est trop cool. Et notre candeur va aussi faire apprendre à l'autre ou pas, mais au moins de partager. Il y a aussi ce truc de se dire au pire, on n'a rien appris, mais on a partagé un verre et ça, rien que ça, c'est cool.
Et je rebondis juste sur ce que tu disais sur le côté un peu ridicule. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve, bah déjà on a fait ce podcast parce qu'on cochait pas toutes les cases entre guillemets de la masculinité. Et là où on se retrouve beaucoup, on n'a pas ce côté coq un peu, ou alors très peu, où quand il y a des meufs autour, on l'a un petit peu. Mais on est pas en mode, on va direct passer en mode séduisant. Mmh. Et on assume d'être ridicule devant des meufs. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. On l'a un petit peu. Je vois Flo qui sourit, c'est pour ça. Mais on l'a moins que beaucoup de personnes et du coup ça nous aide aussi. Ouais, moi et puis l'autodérision en tout cas ça a toujours été mon fer de lance de l'humour.
Et ben pour tempérer un peu ce que tu dis Thibaut, moi je pense
pour dire que t'as tort,
pour dire que tout ce que tu dis depuis le début c'est faux. Non, je trouve dans les épisodes qu'on a avec des femmes, je nous trouve un peu différents et c'est aussi intéressant qu'on le fasse. On a une manière d'être coq qui est peut-être plus constructive, mais qui est quand même présente. Le fait de faire des blagues ou le fait de vouloir se montrer intelligent, intéressant, machin, c'est une manière de faire le coq.
Vous faites des blagues incestueuses avec. Donc c'est ta cousine.
C'est ma cousine.
C'est ta cousine, ouais, c'est ça. Vous
faites oui, des... bon, mais ça.
Ça, c'est pas une blague, par contre.
si, ça, c'est une blague, mais c'est des blagues qui sont nées bien avant le podcast, donc ça va.
C'est vrai. Non, mais oui, ça nous. Ouais, on fait quand même un peu les coqs et c'est marrant, moi, quand je suis au montage et que je remarque, ah, on fait un peu les malins, là. C'est quand même bah, je trouve que ça fait partie, on va pas tout expliquer, mais si tu prends pas de recul sur le podcast, tu veux dire, ah, ils font encore les malins, et ils le font publiquement, et ça permet aussi de voir certains travers qu'on a sans les exprimer.
Ouais, mais je trouve que ça léger par rapport à certains de mes potes, ça devient Mr. Jekyll et Dr. Hyde à chaque fois qu'il y a une meuf, quoi.
C'est parce que tu t'écoutes pas les épisodes en entier au montage.
Ça peut être.
C'est quoi vos projets pour Mise à Mal?
Alors, moi j'ai vraiment, enfin, c'est un projet qui nous meut beaucoup, mais donc je vais parler en mon nom, puis Théo, je laisserai compléter. J'adore le format podcast, j'adore le format audio, j'ai vraiment été très très tôt attiré par la radio libre, etc. Et je pense que fondamentalement, moi j'aimerais avoir une émission radio, que ce soit mon métier, enfin, être podcasteur, j'adorerais que ça, voilà, donc, à tous les studios de prod. Et j'aimerais continuer à faire évoluer le podcast. J'aimerais qu'on en fasse une newsletter et j'aimerais aussi qu'on fasse une chaîne. Mais ça, c'est vraiment un énorme projet, donc on peut pas le lancer pour l'instant. Mais une newsletter vachement plus personnelle sur un point d'accroche très spécifique qui nous est arrivé récemment. On parlait du cheminement parce que sur les podcasts, on essaie de monter un peu en généralité et de voir ce que ça veut dire de la société. La newsletter serait plus consacrée à un point très très perso, très très intime. Voilà, on aimerait le faire évoluer comme ça. Et on avait une idée en saison 1 qu'on n'a pas lâchée, qui était de faire une BD.
Ok.
Où le héros s'appellerait Mise à Hamal.
Mais je voulais parler de ça.
Ah bah alors, je te laisse la parole.
Non, c'est Théo. Bon, vas-y, t'as
commencé. Vous êtes mignon, votre petit duo, là.
Mais alors, Théo, qu'est-ce qu'on voulait faire d'autre?
Eh ben, on voulait faire une BD. On avait toute notre. On a créé, en fait, à force de private joke en private joke, on a créé tout un univers qui s'appellerait. Un petit personnage qui s'appellerait Mise à Hamal, avec un H, du coup, il me semble. Qui se battrait contre le grand méchant
qui s'appelle
Bah non, mais je voulais que tu sois toi qui te le dise du coup.
Mais il s'appelle, je me rappelle plus, il s'appelle Phallus, non ?
Phallus, ouais.
Oui, il s'appelle Phallus. Phallus. Le grand méchant Phallus. Et c'est un peu sur le thème du conte initiatique, tu vois, où t'as des méchants très identifiés, etc. Mais au final, il y a une philosophie un petit peu plus profonde que ça.
Et au-delà de ça, parce que je sais pas si c'est le format BD, mais moi, il y a une idée qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai depuis la première saison et je serais ravi qu'on le fasse, c'est de faire un livre pour enfants, pour qu'il soit sous forme de conte aussi. Parce que là où on parle de mise à mal et de phallus, c'est peut-être un peu plus pour les adultes. Mais vraiment
c'est mieux.
un livre pour les enfants, pour déconstruire la masculinité dès le plus jeune âge, quoi, et en faire vraiment un truc sympa où en fait peut-être que ton personnage principal, il a pas envie d'être chevalier, il veut être princesse, quoi. Enfin, il y a plein de choses à faire de ce côté-là. C'est une piste à explorer qu'on a en tête, qui sortira peut-être un peu. Et au-delà de la dimension mise à mal, moi je rejoins Flo sur le côté vivre de la création de contenu, ce serait un kiff énorme sur l'audio et aussi peut-être sur d'autres formats, mais faire un écosystème de podcasts toujours avec Flo sur d'autres sujets que la masculinité, un podcast sur l'humour, un podcast sur les tables basses.
Waouh. Non mais sur un podcast sur la vie d'adulte, on s'était en fait le dénominateur commun de ce qu'on fait, c'est genre on se prend trop la tête et on est les premiers à le faire. Hein. On se prend trop la tête et donc si on en parle, ça va calmer tout le monde. On peut se détendre. Donc la vie d'adulte, des trucs qu'on veut pas faire, qu'on se force à faire. Enfin, il y a toujours cette notion de pourquoi on joue un rôle là où on a pas besoin, quoi, et qu'on s'entendrait peut-être même mieux. Donc on avait pensé à un petit archipel de podcasts ou de créations toujours avec le même dénominateur commun et sans s'en rendre compte, Mise à Mal était la première pierre de ça.
Et sur cette pierre, nous bâtirons notre église.
Voilà. Mais en fait, on a des boulots à plein temps et c'est extrêmement prenant déjà. Donc, notre but, c'est de trouver comment libérer du temps.
Le mi-temps.
Facile. Pas de temps.
Le 0,5e.
Zéro boulot.
Le chômage.
En tout cas, si vous voulez, en tant qu'auditeur et auditrice, aller participer à la création de cette église, comme tu disais, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. C'est dispo sur Spotify et sur les autres.
Sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict aussi.
Ouais, toutes les applis, quoi.
Ouais. Ouais.
À partir du moment
assez accessible.
Ok. En tout cas, merci les mecs. C'était vraiment cool.
Merci à toi.
C'est génial.
Ça merci pour votre transparence. C'était super.
Bah, c'était trop cool d'être interrogé.
Allez, salut.